So I just first would like to thank you very much for all the information you sent to me very recently about the paper that you have and the whole book. Thank you a lot. I would like to discuss on two points. The first point is about what are the basis of your idea and Stenhouse idea of action research. And the second point is about some comments on the implementation of action research group. I think that one of the main pillars of this idea is the nature of knowledge. If I take some quotation, our knowledge is questionable, verifiable, and differentially secure. The second point that I kept is information is not knowledge until the factor of error, limitation, and crudity in it is appropriately estimated and it is assimilated to structure of thinking, which gives us the means of understanding. I would like to comment that because I think it is related also to démarches d'investigation or inquiry-based teaching, based learning, what you want. Because when we take the idea of knowledge is related to structures of thinking, I think that when we are designing a teaching activity, we should take into account that the knowledge that we introduce in the activity should not be broken down into parts in order that the student's knowledge, which can be useful for them, could be really it would be possible for students to propose, to manage, to use this knowledge. And sometimes the content of the démarche d'investigation is on a very small specific point, and the structure of thinking of the students cannot be used during this because of the limitation of the knowledge which is involved. Another point is Stenhouse recognized that such a curriculum rested on a conception of knowledge as an object of discussion and further inquiry. And in this case, we see that inquiry is not in the same meaning as in démarche d'investigation. Is related to the deep nature of knowledge. So, in that case, the relationship between nature of knowledge and teaching is in the ontology of the knowledge which is taken. It's not something that we have to add. When we have this problem of relationship of the authority of the teacher to the representation of knowledge in teaching has been a central theme of my own work, that Stenhouse, and that of some colleagues in the center and Elliot. And I claim no more than that a research base offers the teacher a security for his authority in mastering of seeking rather than knowing. So in that case, the role, the authority of the teacher in the classroom is based on his mastery of thinking, is not based on his knowing, which is related, it is not a question of telling or saying that knowing is not important. Of course, knowing is important, but there's a nature of knowledge which is thinking more than knowing. And I think that this way of approaching knowledge is rather similar with Brousseau's approach. That is striking for me because before I did not know Stenhouse and your work, sorry, but I knew the work of Brousseau, and I think that it is It's not the same, of course, but it is rather close. What, again, about teaching, were the teacher able to avoid this, he would, in teaching knowledge as authoritative, be teaching an unacceptable proposition about the nature of knowledge, that its warrant is to be found in the appeal to the expertise of persons rather than in the appeal to rational justification in the light of evidence. In that case, I think that if we think in terms of devolution and adidactic, sorry for the French, but it is so French concept that I'm short in time and I cannot develop them. But anyway, what is important in that case is that when in a classroom we discuss about knowledge is involved, of course, but when a teacher asks a student to justify or to give an argumentation, this argumentation is not based, should not be based on the authority of the teacher, but should be based on a rational justification, which is neither from the student's point of view or from the teacher power of knowledge, but it is on a rational justification. Then we enlarge about what educational research could be. Such a view of educational research declares that the theory or insight created in collaboration by professional researchers and professional teachers is always provisional, always to be taught in a spirit of inquiry, and always to be tested and modified by professional practice. And I think this view of educational research which involve a collaboration between researchers and teachers, not all educational research. I refer to the Sansevier approach about what he called the dualism based on Dewey, between means and end, theory and practice, and contemplation and action. I think if we take this idea of educational research, we cannot share between, for example, means and end. And for example, in some recherche action that we know, we have some case where the researchers manage the end and manage the goal, whereas the teachers are a way to go to the end. So this type of recherche action, or what you want to call it, is very antagonist to the idea presented by Stenhouse. And I think we should think about that. A strong relationship, an essential point to keep in mind, this strong relationship between action research and nature of knowledge seems hardly present in the argumentation for action research of most of the approaches. I think even if IFE, we should really deeply think about to avoid the dualism between means and end. And I will discuss later on about the implementation of action group. If we would like to avoid this dualism, we should share aims between researchers and teachers. And I think that to develop an understanding of the problem of the nature of knowledge through an exploration of the provenance, I don't know how to pronounce, warrant and the particular knowledge we encounter in our field of study. And I was also stricken by the similarity with what Sansevier propose. Le progrès de la didactique, pour moi, consiste dans l'invention de dispositifs qui visent cette fin consubstantiellement épistémique et politique, par principe toujours renouvelé, dans la production d'une communauté d'enquête. Here, the community of enquête, I extend this idea, is not only between teachers and students, but only between researchers and teachers. And so if we have a real community, inquiry community, we should share the aims. And the concrete aims could be share the knowledge to be taught, share the ways of teaching in order that students can construct a relation to knowledge as inquiry, and, for example, the development of collective work, progress in understanding classroom practice, for example. The cooperation between teachers and researchers in action research implies to develop new actions and new knowledge. And we, for example, development of new action of teaching, professional development, development of better understanding, and in action research, and also I will discuss about it, what are the productions of a group of research, of action research. And in action research groups, there is room four different types of teachers, and not only those, as you mentioned, who are doing a graduation at university. I think teachers who participate to groups de recherche action should not have, not all of them, but at least some of them, should not have to take a degree to become a researcher. You agree? Thank you. I think it's an important point if you would like to have real action research. Different types of teachers, but there is a problem of ambiguity of the word research. This contingency, John Elliott, this contingency call for a more self-reflexive mode of teaching in which traditional understandings of situations are called into question and new understanding evolve as a basis for practice. Action research is the name we give to this kind of teaching. So we should take care about our use of action research. Action research is the same expression, is not action plus research. Because here, action research, the research doesn't mean the same, has not the same meaning as in academic research. So participating to a group of action research is not equivalent to be a member of a research unit. And then the group of teachers and researchers constitute a community of inquiry community. And I think that we discuss about that later on. The problem of the group of action research is what type of productions do we want to make? And I will discuss that later. So I think that in group of teachers and researchers, there are different professionals. The aim is that the teachers develop their professional expertise and is not that teachers become a professional researcher. Different types of teachers can become members of action group research, even those who do not have academic background in research. But the group should include some participants who are brokers. It means brokers, I have a lot of difficulty of translation into French, but is a type of negotiator. I take an example of a future European project where we will be involved, which is a project. The aim of this project, which will start next January, is to investigate formative and summative assessment method to support and to improve inquiry-based approaches in Europe, in European science, technology, and mathematics education. So I do not develop the group, but the idea in this project is to create two different groups, one involving teachers, another group, but two groups with teachers. One is teachers expert panel, with the aim of to adapt proposal of assessment method content designed by the partners of the project to the existing local teaching culture. We are six different countries. And the local working groups, the specific aim is to test the assessment method content over several months period. So just to comment that is... I would like to go to French in this case because I hope you can follow. faut que je pense en français. Accord sur les buts. Il me semble un point essentiel dans ce travail que nous allons à faire est d'abord que les groupes s'entendent sur les buts qu'ils veulent se donner. Et que un des buts, c'est le développement de la pratique des professeurs en lien avec le savoir enseigné. Et la question est, la pratique en lien avec le savoir enseigné doit-elle toujours être en jeu dans les buts d'un groupe de recherche-action? C'est une question beaucoup plus générale que je pose. Un accord dans un groupe de recherche-action sur les productions du groupe. Et à mon avis, là, c'est un vrai problème conjoncturel en France. Quels sont les types de productions d'un groupe de recherche-action? Et à mon avis, alors là, je me pose très personnellement, donc c'est évidemment très à débattre tout à fait, c'est que les productions ne doivent pas être les mêmes que celles d'un groupe de recherche. C'est-à-dire que les productions ne doivent pas être nécessairement des publications dans des revues pour des chercheurs. Il faut des productions qui nourrissent la pratique des profs. Sinon, ce n'est pas un groupe de recherche-action. Et si je reprends vraiment les buts précédents, on a vraiment un point essentiel, c'est que cette recherche-action qui implique les professeurs doit nourrir la pratique sur laquelle on travaille, c'est-à-dire la pratique d'enseignement. Alors ça s'appelle la pratique de classe, la pratique de l'école, la pratique dans le système éducatif. Et donc les productions doivent être au moins un minimum des productions liées à la pratique qui informe la pratique et qui ne soient pas, en tout cas pas exclusivement, des productions de recherche. Ensuite, il faut des accords, évidemment, sur les objets en jeu dans le travail collaboratif. Dans notre cas, ça sera, est-ce qu'on prend les vidéos de classe, les documents donnés en classe, les productions des élèves, le programme officiel. Mais je pense qu'il faut des accords dans le groupe sur la nature des buts, les productions et les objets sur lesquels on va travailler. Maintenant, je vais reprendre l'exposé très, très vaste de Bernard Calmette. Et je vais juste donner quelques points. J'ai repris finalement les dernières questions, les questions de son dernier transparent, pensant qu'elle essayait de faire un pont avec ce qui a été fait avant. Quand je reprends la question du contenu ou des démarches, ou démarches et méthodes, et que je réfère à Stenhouse et Eliot, je pense que, peut-être c'est un grand mot que j'ai utilisé, mais que séparer contenu et démarche est un dualisme qui me paraît pas très pertinent si on prend en compte le savoir. Et que si on prend en compte le fait que le savoir est questionable, verifiable and differentially secure, est un moyen de comprendre ou est une puissance d'agir en situation, alors démarche et contenu sont complètement intriqués, entrenched. Les textes officiels qui présentent alors c'est une difficulté en France parce que les textes officiels présentent la démarche de manière transversale, c'est-à-dire qu'elle ne se pas liée à des contenus spécifiques. Mais si on veut vraiment faire une communauté d'enquêteurs dans la classe, à ce moment-là, me semble-t-il, une analyse du savoir extrêmement fine doit être faite parce que les activités d'investigation souvent, et ça j'étais surprise de la question, et peut-être une différence entre sciences de la vie et physique, c'est qu'en France y compris, il y a très peu de mise en œuvre d'hypothèses dans les activités d'investigation, y compris dans les fiches. Quand je prends la grille d'analyse proposée par une Américaine, d'ailleurs, Edkina, et dans la publication, il y a Melo Silver qui a été invité précédemment, on voit qu'elle propose des processus, et ce que j'ai mis en grâce, c'est ce qui est quasiment fait dans toutes les démarches, les feuilles de démarche d'investigation, en particulier au collège. C'est-à-dire qu'on rend les élèves actifs, on va leur faire prendre des mesures, on va leur faire recueillir des données, mais en revanche, concevoir des hypothèses et évaluer, évidemment, construire ensuite, à développer la théorie, c'est très peu pris en compte, et pour une des raisons de cela, me semble-t-il, et que le savoir est découpé de telle façon que les explications que les élèves pourraient proposer ils ne peuvent pas les mettre en compte parce que le découpage du savoir fait que leur façon de penser ne peut pas être prise en compte. Alors je vois le temps qui passe et je vais aller plus vite. Donc rendre les élèves actifs, oui, mais les élèves actifs pour, par exemple, poser des questions, ça peut avoir des statuts très différents. Je vais m'arrêter. Je vais... 10 minutes. Ah bon. Alors ça va. Je crois que c'est 5. Quand on dit poser des questions, et ça a été une question posée, je pense que poser des questions dans la classe, c'est pas de dire... le prof demande qu'est-ce qui va arriver dans cette expérience, est-ce que l'objet va tomber loin ou près, est-ce que ça va être rouge, vert, est-ce que... Bref. Une question qui me paraît de l'ordre d'une... Si je prends une métaphore en disant où est-ce que je suis, une métaphore du chemin, où suis-je, je pense que je devrais... Quelqu'un qui ne sait plus où il est, il peut réfléchir de manière... en se basant sur le savoir, si le soleil est là, je vais être céleste, si le soleil est là-bas, c'est l'ouest, etc. Et donc, il peut réfléchir en se basant sur son savoir. Mais il y a plein d'autres questions qui ne sont pas épistémiques et qu'on retrouve dans la majorité des classes. Je suis complètement perdue, ça malheureusement on le voit. Je suis ici, le soleil est là, donc je suis sûre que c'est la bonne direction, je le sens. Je le sens, dit l'élève. Moi, je pense que... Qu'est-ce que tu penses? Ah, ben c'est mon intuition. Et alors tout le monde est content parce qu'il a donné son intuition. Mais ce n'est pas une question épistémique, donner son intuition s'il n'y a pas d'argument avec. Et puis une évidence, je sais que c'est par ici, c'est évident, évident au sens français du terme. Question démarche pour l'enseignement, démarche pour l'apprentissage, pose Bernard Calmette. Démarche pour l'enseignement, s'agit-il de construire dans la classe un contrat didactique où le savoir peut être mis en œuvre, discuté, pensé, questionné, remis en question ? Et cela implique un milieu, si je prends la... Je pense que tout le monde est un peu familier de ces concepts français de contrat et de milieu. Et on voit bien que si on veut un milieu qui permette à l'élève de poser des questions sur le sens du savoir et sur sa mise en œuvre pour avancer dans le programme, et non pas sur des questions d'algorithme, comment on fait pour résoudre ce problème ou quelle est la bonne réponse, et donc... On voit bien ici que si on fonctionne en termes d'un contrat et d'un milieu, la question de la démarche et de du savoir, du contenu de savoir, ne va pas être dissociée. Il faut les prendre ensemble. Bien sûr qu'il y a des moments où on va pouvoir développer un aspect ou un autre, mais le milieu va nécessiter de prendre ensemble cette question des démarches et du contenu. Démarche pour l'apprentissage, démarche pour apprendre, là c'est moi qui pose des questions parce que je ne sais pas exactement ce que cela recouvre. Est-ce que ça recouvre ce que font les échelles, les élèves à un très fine pour regarder comment ils fonctionnent, ou est-ce que ça recouvre des processus d'apprentissage qui relèvent vraiment de la cognition, de l'émotion, etc. Donc ça c'est vraiment une question ouverte. Et puis... quand je prends la démarche d'investigation et les démarches scientifiques... je pense que là, on a une question de transposition extrêmement importante que Bernard Calmette a vraiment soulevée, mais que cette question de transposition, et là je me réfère également à Sansevier, que l'idée, par exemple, qu'il y a une situation, des situations d'investigation dans le laboratoire, donc il faut en faire une dans la classe, eh bien, dans ce cas-là, je dirais que c'est une imitation des formes externes, comme le propose Gérard Sansevier. Mais ça n'est pas une transposition qui prend en compte la nature du savoir. On a une forme dans un laboratoire, et puis on la transpose dans la classe. Alors qu'il s'agit, dans la classe, de permettre aux élèves de s'approprier, de construire un savoir qui leur donne une puissance d'action, qui leur donne le pouvoir de résoudre des problèmes, de résoudre des problèmes de nature diverse. Ça dépend aussi des choix de l'enseignement. Alors, la question de l'évaluation, je ne le redévelopperai pas beaucoup, mais à nouveau, la question des compétences, bien sûr qu'il faut la prendre en compte, puisqu'on a un programme officiel, on a des textes officiels qui nous obligent à avoir les compétences. Ceci dit, je pense qu'il y a un réel travail à faire. Ces compétences, nous a dit un inspecteur général à une réunion pas très lointaine, ne sont pas figées. Donc, on va pouvoir les faire évoluer. eh bien, allez, allons-y, relevons le défi. Et je pense que là, on a à penser ces compétences qui ne doivent pas être isolées des fonctionnements du savoir, de la nature du savoir, et ne doivent pas être isolées sur la façon dont les élèves fonctionnent. Donc, essayons de ne pas découper trop les choses. Eh bien, voilà, je vais finir là-dessus. Les pratiques d'évaluation sont en lien avec l'enseignement, c'est ce que je disais, et que ces évolutions, que finalement, c'est un défi qu'on nous lance actuellement, le savoir, sa nature, sa mise en œuvre, on doit vraiment prendre en compte cette approche du savoir que l'on voudrait développer dans la classe et que l'on a nous-mêmes, qui est vraiment une question, le savoir, on peut le questionner. Il n'est pas figé. Bien sûr, quand on travaille au niveau international, la culture de chaque pays joue un rôle considérable, y compris, je pense, dans les compétences, dans les déclinaisons des compétences. Et évidemment, il faut prendre en compte pas que la classe, l'école, les parents, la société, plus généralement, le fonctionnement de la classe et le fonctionnement des élèves. Voilà, c'est quelques commentaires que je voulais vous livrer, si peut-être il y a quelques questions maintenant.